BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre émission sonnante et très bouillante. Bienvenue à tous. Les marchés, oui, bouillonnent chaque après-midi sur BFM Business. On prend leur température grâce, elle est au cœur du bain évidemment, de cette séance, grâce à Aude Kersulec depuis la Tour Euronext, notre accès exclusif au CAC 40. Rebonjour Aude, vous suivez cette séance pan-européenne de l'intérieur. Comment va le CAC aujourd'hui ?
On va petitement, on prend 0,1% en ce début de semaine. On est à 8160 points pour le CAC 40. On va un petit peu moins bien, c'est vrai, que les autres indices européens, notamment le DAX qui progresse de 0,3%, de même que l'Eurostox 50. Alors pourtant, on a des valeurs qui montent, notamment la défense, notamment Thales sur le CAC, mais aussi Dassault Aviation sur le SBF qui prend quasiment 7%. Donc ça fait monter notre CAC de 0,1%.
Effectivement, avant une semaine de 4 jours. Voilà, si vous cherchez la semaine de 4 jours, on la trouve sur les marchés, puisque vendredi, il n'y aura pas de séance, figurez-vous, ni sur la plupart des marchés européens, ni à Wall Street, comme à chaque fois la veille du week-end pascal. Semaine donc plus courte que d'habitude, mais assez dense et riche, intéressante, avec des chiffres d'inflation à suivre, notamment vendredi, l'indice PCE américain, qui est l'indicateur d'inflation le plus suivi par la Fed. Le PCE américain, il sera donc publié en toute fin de semaine. On va en parler, bien sûr. Quel potentiel boursier à venir désormais? Maintenant qu'on est au bout des publications d'entreprises, quels seront les prochains relais pour les marchés? Cette question, on va la poser à nos experts. John Plassard, tout à l'heure, nous disait quand même que ce début d'année, bien sûr, est positif sur les marchés, mais pas non plus exceptionnel. Le S&P 500, depuis le 1er janvier, effectue seulement son 15e meilleur début d'année depuis 1928. 15e meilleur début d'année. On aurait pu penser que ce début d'année était plus exceptionnel que ça. Ben non, il n'est pas si exceptionnel que ça pour le S&P 500. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reste du coup beaucoup de potentiel pour la suite? Cette question, on va bien sûr donc la poser. Alors que les investisseurs achètent quand même parallèlement des actifs refuges. On pense à l'or, nouveau record de l'or. Cet après-midi, on est actuellement sur l'once d'or à 2180 $. Et puis on va aussi parler de la tech, et notamment de ce titre Intel en repli de plus de 2% aujourd'hui parce que la Chine fait pression sur les fabricants américains de puces. C'est toujours cette bataille entre Américains et Chinois. La Chine en effet envisage d'interdire l'usage de puces Intel et AMD dans ses systèmes publics. Intel réalise quand même 27% de ses ventes en Chine, AMD 22%. C'est un gros enjeu pour ces deux groupes, et Intel aujourd'hui perd plus de 2,5% à Wall Street à l'instant. AMD aussi recule, mais un peu moins, de seulement 0,8%. On va aussi en parler avec nos experts. Bienvenue à tous, BFM Bourse en direct jusqu'à 18h. On est à vos côtés, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on en parlait aussi dans la précédente demi-heure. Cette journée est importante pour Donald Trump. À quelques mois de la présidentielle américaine, il a besoin de trouver de l'argent pour trouver une caution dans son procès civil. Donald Trump, il a besoin pour cela donc de trouver de l'argent. Et tout va se jouer en bourse, où Donald Trump, en introduisant ses réseaux sociaux, espère pouvoir lever suffisamment d'argent pour conquérir cette caution dont il aura besoin dans ce procès. On en parlait avec John Plassard aux alentours de 15h30, si vous l'avez raté en direct. Le replay est disponible sur notre site bfmbourse.com. N'hésitez pas à le consulter. Aude, on est en hausse en Europe. C'est une bonne nouvelle alors que Wall Street recule. Pour une fois, l'Europe fait un peu mieux que les États-Unis.
Oui, alors vous parliez tout à l'heure de AMD, Intel, la tech américaine qui en baisse. C'est quand même le cas aussi en Europe. Si on prend d'ailleurs le Euronext Tech Leader, l'indice d'Euronext, donc sur les valeurs technologiques, on a recul de moins 0,14%, quand le CAC 40, lui, grappille quelques points. On est à plus 0,11%, 8160 points. Alors on a quand même peu d'actualité. Et à chaque fois qu'on a peu d'actualité sur nos indices, c'est les changements de recommandations qui font les petites variations du jour. On a par exemple Société Générale qui a été dégradée par Morgan Stanley, qui passe à pondération en ligne au lieu de surpondérer. Bah, on perd quand même 1,5% sur la valeur, hein, 24,15€. On a Legrand aussi qui est en recul. On a donc des valeurs de la tech, puisque je le disais, l'Euronext Tech Leaders qui est en baisse, Capgemini, Dassault Systèmes qui sont en baisse de 1%. Et puis sur l'indice plus large, c'est Dassault Aviation qui prend son envol, plus de 7% de hausse. Alors on pourrait dire qu'il y a effectivement ce relevé de recommandations de la part d'Exane, BNP Paribas, puis aussi de manière le contexte géopolitique de manière générale qui s'est un peu durci ce week-end avec l'attentat de Moscou vendredi en Russie, et qui donc place Dassault Aviation en tête du SBF et Thales en tête du CAC 40 à 2,35% de progression, 160 euros.
Effectivement,
secteur de la défense qui rayonne aujourd'hui sur les marchés. Bertrand Lamiel est avec nous en fil rouge tout au long de l'après-midi depuis les bureaux de Plans en Part Gestion. Vous êtes toujours là, Bertrand ?
Toujours.
Toujours avec nous. Merci de répondre, comme à chaque fois, à l'appel de BFM Business et de BFM Bourse. Effectivement, Dassault Aviation qui aujourd'hui surperforme grâce à ce relèvement d'opinion, à surperformance de la part d'Exan. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre Dassault Aviation ? Est-ce qu'il faut continuer de l'acheter, franchement, et entre nous, Bertrand ?
En fait, nous, on n'est pas vraiment à l'achat sur... On n'est pas à l'achat sur Dassault Aviation. Dans la défense, effectivement, c'est des actifs qui ont plutôt eu tendance à bien marcher depuis, malheureusement, la survenue du conflit en Ukraine. Mais Dassault Aviation n'est pas celle qui s'est le plus distinguée. En fait, vous voyez, depuis mi-2022, elle suit l'Eurostock 50, ce qui est déjà bien, parce que c'est un indice qui a bien performé depuis, mais elle ne fait pas de surperformance mis à part aujourd'hui. En fait, les dossiers qui se comportent mieux, on va avoir dans le secteur aéro/défense du Safran, ou alors chercher dans les Nordiques, du Saab, du Kongsberg, ou en Italie, du Leonardo. Donc voilà, quatre titres qui, pour nous, méritent plus leur place dans un portefeuille qu'une Dassault Aviation.
Il y a aussi cette question qui agite le marché et la communauté financière depuis quelques jours, cette question des introductions en bourse. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché parisien, les introductions en bourse, elles manquent vraiment à l'appel. Elles se sont largement raréfiées depuis maintenant quelques années. Du coup, la question, c'est comment relancer l'attractivité de la place de Paris. L'AMF a trouvé une astuce. Elle autorise désormais, Bertrand, les entreprises à évincer les investisseurs particulier des introductions en bourse. En évinçant ainsi les investisseurs particuliers, la place parisienne retrouverait l'attrait auprès des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'évincer les investisseurs particuliers ? Et en quoi est-ce que, du point de vue d'une entreprise, ça peut effectivement renforcer l'attrait de la place parisienne, d'après vous ?
Sur les intros, on n'en a pas vu depuis quelques années. Non, enfin, 2022, c'était une année très riche en introduction.
On en a vu, mais moins qu'avant Covid quand même, ça s'est calmé.
Ça reste bien, mais c'est vrai que là, dans un marché qui se comporte bien, c'est étonnant de voir que les émetteurs ne profitent pas de ce marché qui fonctionne bien. On le voit quand il y a des augmentations de capital, il y a tout de suite de l'argent pour venir se positionner. Donc ça, c'est un peu étonnant. Dans ce cadre-là, l'AMF, évincer des investisseurs particuliers, je pense pas que ce soit la priorité de l'AMF. L'AMF, en fait, a une logique aussi concurrentielle vis-à-vis des autres places. Et sur les autres places, quand vous ne faites pas appel aux particuliers, vous avez des délais d'introduction qui sont plus courts, c'est-à-dire de 3 jours au lieu de 6 jours. Or, pour un émetteur qui joue quand même gros ces moments-là, ça lui permet de limiter l'effet marché, enfin, se dire, voilà, ça limite son incertitude. Donc, l'AMF dit, manifestement, certaines fois, des émetteurs ne viennent pas en bourse ou préfèrent un autre marché du fait de cet appel public à l'épargne et donc de 6 jours supplémentaires. Alors nous, on est particulièrement sensible à ça parce que vous le savez, pour Vampa, on fait beaucoup d'introductions en bourse sur les mid et small cap, on est éditeur en France. On aura une logique où on laissera la possibilité aux investisseurs particuliers de venir parce que faut avoir en tête que sur le marché secondaire, c'est 30 à 50% de l'animation qui est faite via les particuliers. On n'est pas dans une logique de les squeezer. Ce d'autant plus que les émetteurs, les sociétés qui rentrent en bourse, souvent nous font la demande justement d'avoir une part pour les particuliers dans une logique d'avoir un investissement, d'avoir un panel d'investisseurs plus large possible à côté des institutionnels. Donc la possibilité d'avoir des particuliers, elle est toujours là. C'est juste que pour certains émetteurs qui voudraient rentrer plus vite en bourse, ils auront la possibilité de dire, je réserve mon introduction aux institutionnels. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, l'AMF se dit, c'est quand même important cette affaire-là. Elle a bien noté qu'il y avait des particuliers qui étaient venus en bourse dernièrement et que les introductions potentiellement pouvaient être quelque chose qui les attirait. Et donc, elle se donne 3 ans pour regarder, avec une étude chiffrée à l'appui, voir si cette décision porte du sens.
Ouais, explication de texte intéressante et nécessaire. Merci beaucoup. Bertrand Lamiel, le directeur général de Plans en Part Gestion, nous accompagnait en direct. Le CAC 40 gagne 0,1%. Alors, parmi les gagnants du jour, il y a aussi Believe dans la musique. Les enchères pour son rachat, le rachat de Believe, sont relancées. Believe qui demande à Warner de soumettre une offre contraignante. Believe gagne 5% sur le marché parisien. Puis une autre valeur en hausse, vous l'avez repéré au haut de cette valeur, le titre Carmat, parmi les meilleurs performeurs aujourd'hui.
Oui, Carmat a réussi à négocier avec ses créanciers pour allonger la franchise. Alors, des PGE, les fameux prêts garantis d'État, ça va être reporté de 24 mois. Et puis aussi auprès de la Banque européenne d'investissement. Alors là, ce sont des dettes qui vont être progressivement transformées en actions. En tout cas, ça donne un peu d'air, en fait, à cette entreprise. Forcément, Carmat qui fabrique des cœurs artificiels. On est dans la santé, dans la biotech. C'est forcément très capitalistique. Ce sont des entreprises endettées. Et donc, ça, ce sont vraiment des signaux qui montrent que les investisseurs peuvent avoir un peu plus confiance. On monte de 3% pour Carmat, 3,98€. Et c'est pas la seule entreprise endettée qui monte aujourd'hui, puisqu'on a aussi le cas Atos. Alors là, on est dans le SBF 120, on monte de 5%. Atos, il y a encore eu des avancées ce week-end avec le plan de David Layani qui a été dévoilé dans le Figaro hier. David Layani, premier actionnaire de Atos avec OnePoint, qui en fait le dit dans son interview, il veut préserver l'intégrité du groupe, il veut pas de cession de BDS, pas de cession des activités historiques Tech Foundation. Et ce matin, Atos a réagi en disant que ses propos tenus dans le Figaro n'engageaient pas la société, mais quand même, cette démonstration d'intérêt de la part d'un actionnaire de poids, premier actionnaire, rassure les investisseurs sur le fait qu'il va pouvoir peut-être négocier avec les créanciers pour mettre en place un nouveau plan stratégique et permettre aussi l'afflux d'argent nouveau. En tout cas, on prend 5% sur Atos à 1,85€.
Effectivement, 1,85€ plus 5% sur une semaine, le titre perd encore. Et on le voit, tous ceux qui nous suivent à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télévision. On voit que sur une semaine, le titre, malgré la hausse d'aujourd'hui, le titre perd encore 19%, ce titre Atos, sur un an, moins 86%. Voilà où on en est. L'état des lieux et l'ambiance du jour sur les marchés, grâce à vous, Aude Kersulec, depuis la Tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, tout à l'heure. Dans un peu plus d'une heure, ce sera la Data Room. Ne ratez pas ce rendez-vous. Mais d'abord, une idée de valeur en plus, Mathias Pecker qui nous appelle. Bonjour Mathias.
Bonjour Guillaume.
Président de Métis Gestion. Mathias, vous êtes avec vos équipes à l'achat sur le titre EPC, explosifs et produits chimiques. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette valeur cotée à Paris aujourd'hui, Mathias?
Alors, je vais vous le dire tout de suite. Donc, EPC, c'est une valeur de taille moyenne, autour de 270 millions d'euros de capitalisation, qui est peu connue, et pourtant, c'est une des plus vieilles valeurs de la cote, puisque la société a fêté son 130e anniversaire en 2023. Alors, le groupe EPC est un pionnier en matière de fabrication d'explosifs civils. C'est une activité extrêmement réglementée qui nécessite de gros investissements, ce qui constitue en soi une forte barrière à l'entrée. Pour donner des exemples concrets, EPC fabrique des explosifs pour les acteurs du BTP comme Eiffage ou Vinci, ou pour les géants miniers tels Rio Tinto ou CBG en Nouvelle-Guinée. La société est d'ailleurs présente sur le chantier du tunnel euralpin Lyon-Turin. Après avoir remporté un premier contrat d'une dizaine de millions d'euros en 2022, EPC a annoncé le mois dernier avoir obtenu un nouveau contrat de 3 millions d'euros pour la fourniture de produits pyrotechniques. Pour résumer, il y a une dizaine d'acteurs de ce type à travers le monde et EPC fait partie des plus gros.
Pourquoi investir? Parce que tout ce que vous nous dites, le marché le sait déjà. Pourquoi investir maintenant dans cette valeur?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que EPC était une belle endormie jusqu'à la prise de contrôle début 2020 par le fonds de private equity Argos, qui détient aujourd'hui à peu près 60% du capital. Et aujourd'hui, on voit plusieurs bonnes raisons pour investir. La première, c'est qu'on a un calendrier. On sait que les sociétés de PE investissent en moyenne pour des durées de 5 ans. Et on peut donc estimer qu'à horizon 2026, EPC pourrait être revendu avec une belle prime par rapport au cours actuel. La deuxième raison qui est en lien avec la première, c'est qu'en investissant dans EPC, on va bénéficier du travail et du savoir-faire de ce fonds de PE, d'Argos, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le secteur, puisqu'Argos avait notamment redressé la société d'Ivey Bickford et l'avait revendue au chilien ENX en 2015 avec une très bonne plus-value. Mais ce qu'on a aussi avec EPC, c'est des ratios de valorisation qui sont relativement faibles. On se paye 5 fois l'EBITDA attendu en 2024. On a des actifs cachés, notamment une filiale non consolidée dans la démolition, des terrains très importants près de Saint-Rémy-de-Provence ou encore en Angleterre. Et enfin, on a un potentiel d'amélioration des marges qui est très important puisque l'EBITDA de la société attendue aujourd'hui tourne autour de 10%. Alors, et il devrait progressivement s'améliorer pour tendre vers la moyenne du secteur qui est autour de 13 à 14%.
Quel est votre objectif de cours?
Alors, si on reste raisonnable, les pieds sur terre, les transactions dans ce secteur, elles se font entre 13 fois l'EBIT et 8 fois l'EBITDA. Si on fait une moyenne entre un ratio d'une fois le chiffre d'affaires et 8 fois l'EBITDA attendu en 2024, ça nous donne une valorisation proche de 200 euros par action, soit un potentiel d'appréciation d'un peu plus de 60% par rapport au cours d'aujourd'hui. Alors, d'accord, ça peut paraître assez ambitieux, mais c'est assez raisonnable quand on sait que Titanobel, un concurrent français plus petit et moins diversifié géographiquement, a été revendu plus de 8 fois l'EBITDA en 2021.
Merci Mathias. Mathias Pecker, gérant Small Cap France et président de Métis Gestion. Et cette valeur que vous aimez bien, donc, c'est de la diversification. Vraiment, c'est de la diversification de portefeuille, on le rappelle. EPC Group, merci de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui, objectif de cours 200 euros. Le CAC 40 est toujours en hausse, plus 0,1%.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Mais il y a mieux que le CAC. C'est l'or. L'or sur de nouveaux records. François Cabot est avec nous, économiste senior pour AXA IM. Bonjour François. Pourquoi ce nouveau record, 2 180 $ à l'instant pour l'once d'or? Pourquoi ce nouveau record? Est-ce que ce sont les banques centrales, toutes les banques centrales, rien que les banques centrales, ou vous voyez d'autres explications à ces achats massifs d'or?
Je crois que c'est une façon de se rassurer vis-à-vis de l'emballement du sentiment des marchés ces derniers mois vis-à-vis du risque. Je m'explique, c'est-à-dire on a un marché, de mon point de vue, relativement décorrélé du fondamental macro, et donc une augmentation des cours de l'or vise à se positionner pour une protection vis-à-vis d'une réappréciation du risque, si effectivement risque de un peu plus chaotique et de marché qui viendrait réapprécier finalement la valeur du risque qu'on a un peu perdu ces derniers mois. Et là-dessus, j'y vois deux éléments, deux déclencheurs ces dernières semaines. Un, sur les élections américaines et les résultats des primaires qui indiquent effectivement un renforcement de la position de Trump dans ses présidentielles. Donc une incertitude et potentiellement des scénarios compliqués à gérer pour les marchés après l'été, évidemment. Mais pour l'instant, on prévient le risque. Et puis effectivement, également ces dernières semaines, incertitude et tension à la hausse hein, dans le conflit avec la Russie. Hein, on commence à parler de guerre proprement dite et quid de l'envoi de forces armées sur Terre également du point de l'OTAN. Tout ceci ne sont que des possibilités, bien évidemment, on est bien loin d'une réalité. Mais cette augmentation du cours de l'or pourrait effectivement traduire une certaine protection vis-à-vis d'un environnement qui fondamentalement est de plus en plus risqué, mais qui ne se voit finalement que dans le cours de l'or et pas dans l'ensemble des autres actifs risqués tels que vous l'évoquiez sur les CAC à l'instant.
Il y a un effet de concentration parmi les actifs refuges sur l'or particulièrement plus que sur le dollar par exemple. Le dollar, justement, absolument. Les États-Unis, on va les suivre de près les États-Unis puisqu'on aura cette semaine un indicateur d'inflation et pas des moindres. Ce sera l'indice PCE, ce sera vendredi, c'est l'indicateur d'inflation le plus suivi par la Fed. Est-ce que vous pensez que cet indicateur PCE va confirmer le rebond d'inflation là-bas aux États-Unis?
Alors oui, une réaccélération, mais réaccélération modérée. On envisage une 0,1 point de pourcentage à 2,5 hein, en rythme annualisé sur l'inflation sous-jacente. Donc là-dessus, c'est de notre point de vue malgré tout trop modeste pour changer le cours de la Fed, notamment après une communication assez claire hein, malgré tout la semaine dernière. Et de ce point de vue-là, on suit avec attention la semaine dernière aussi les ventes au détail hein, qui ont ralenti un petit peu et qui devraient nourrir selon nous un ralentissement de la consommation et avec elle des prix. Donc compte tenu de nos prévisions de ralentissement un peu plus important hein, que ce que la Fed dans ses propres prévisions, on a une prévision de croissance américaine l'année prochaine à 1,4 versus la Fed à 2. Pardon. Donc de notre point de vue, même si on a éventuellement une réaccélération des prix, on continue de voir 4 baisses de taux cette année et donc effectivement un scénario un peu plus agressif sur la baisse de taux que ce qu'elle a la Fed et le marché price eux-mêmes.
François Cabot pour AXA IM, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, François, d'avoir répondu à l'appel de BFM. Et donc, vendredi, l'indice PCE américain qui sera publié. En fin de semaine aussi, l'inflation française sera publiée. Ce sera intéressant, on aura aussi l'inflation espagnole cette semaine. En attendant, le CAC 40 est en petite hausse là de 0,1%. Dans une heure, donc la data room intéressante, cette data room à venir tout à l'heure, puisque Louis de Montalembert nous apportera un chiffre assez incroyable sur le déploiement, la vitesse du développement de l'IA générative sur laquelle le rythme des développements est en train d'accélérer et on aura ce chiffre très précieux. Rendez-vous à 17h25 tout à l'heure pour la Data Room.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Lui aussi est précieux. Guillaume Chaloin, bonjour Guillaume.
Merci, bonjour.
Vous êtes notre or à nous, voilà. Guillaume Chaloin est le directeur des gestions actions de Delubac Asset Management et l'un des trois co-gérants du portefeuille BFM responsable. Merci de nous accompagner si régulièrement. Portefeuille de valeurs ESG, il y en a une quinzaine, hein, à peu près tout éligible aux critères du PEA. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, la performance est un peu moins au rendez-vous. Encore la semaine dernière, notre portefeuille BFM responsable a sous-performé l'Eurostox 50, moins 0,57 pour le portefeuille, alors que l'Eurostox, lui, a progressé. Et c'est comme ça depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le marché est en train de changer? Comment est-ce que vous expliquez que depuis quelques semaines, notre portefeuille se distingue par une sous-performance un peu continue, quoi.
Alors à la fois, effectivement, il était un petit peu compliqué ce marché dans sa dernière phase d'hausse, hein, puisque les choses se stabilisent, hein, notamment depuis cette semaine, où il y a un petit peu de mieux. D'ailleurs, on le verra sans doute en fin de semaine pour le portefeuille. Mais il y a cet aspect ultra concentré du marché, de l'indice, en l'occurrence de l'Eurostoxx 50, versus un portefeuille qui, lui, est certes sur un nombre de valeurs resserrées, mais quand même diversifié dans ses thématiques. Hein, c'est comme ça qu'on le veut pour jouer. Plusieurs idées tout au long de l'évolution du portefeuille.
Il y a de l'assurance, il y a de la santé, voilà. Il y a de l'énergie.
Alors qu'on voit que sur les indices, on a eu un petit peu ces derniers temps ce même problème, en tout cas depuis le début de l'année, ce même problème qu'aux États-Unis. Les valeurs technologiques, les Magnificent Seven aux États-Unis. En Europe, c'est ces fameux granola, ce terme dont on commence à pas mal entendre parler. Donc avec dedans de la tech, une valeur comme ASML qui n'est pas dans le portefeuille, mais qui est un poids important dans l'Eurostoxx 50, et puis le luxe qui, jusqu'à un passé récent, n'était pas dans le portefeuille, et je pense au luxe au travers des poids lourds comme LVMH par exemple, qui n'est pas présent au sein du portefeuille. Et puis après, on a eu quelques éléments spécifiques au travers de valeurs, des éléments négatifs, hein, on l'a vu avec Edenred, notamment avec des problèmes en Italie, qui a été sorti du portefeuille. On le voit avec Nesté, c'est un peu une déception au sein de ce portefeuille. D'ailleurs, il faudra qu'on se questionne, hein, avec les autres gérants sur le devenir de Nesté au sein du portefeuille. Donc, à la fois du global, j'ai envie de dire, et puis aussi du spécifique.
Alors, juste pour ceux qui nous rejoignent en direct et qui ne connaissent pas encore ce portefeuille BFM Responsable, attention, on vous rassure, hein, ce portefeuille sous-performe le reste du marché depuis un mois et demi, deux mois. Sur les trois années d'existence, trois ans et demi maintenant d'ailleurs, du portefeuille, sur les trois années, on a plus de trois ans de surperformance. C'est-à-dire que là, on a une petite sous-performance depuis un mois et demi, deux mois, après plus de trois ans de surperformance. Donc, il y a aussi quelques prises de bénéfices. Il n'empêche, c'est vrai que depuis un mois, on a choisi enfin d'exposer ce portefeuille au secteur du luxe à travers le titre Brunello Cucinelli. Il se trouve que sur la semaine qui vient de s'écouler, ce titre a signé le plus fort repli du portefeuille.
Oui, alors on avait eu quand même une très très belle progression, hein, quasi 30% en ligne droite depuis le début de l'année. Justement, juste avant la publication a été très bonne, mais elle n'a pas fait l'objet de relèvement de la part du management, mais qui avait déjà donné ses guidances, hein, pour les précédentes. Je pense que là-dessus, les investisseurs anticipaient beaucoup. Il y aura du relèvement, mais j'ai envie de dire que le management s'en garde sous le pied pour les prochains trimestres. Ça a été la même chose l'année dernière. On a eu trois relèvements trimestriels qui ont suivi sur le chiffre d'affaires avec une croissance organique d'une dizaine de pourcents. C'est vrai que le titre se paye cher. Donc, il y a quand même des prises de profit. Puis, le deuxième point qu'on a vu, c'est Gucci, bien sûr. Hein, c'est Gucci au travers de Kering.
Qui a pesé sur tout le secteur la semaine dernière.
Voilà, en Chine. La lecture croisée, on a le coutume de dire, n'est pas du tout valable dans le cas de Brunello.
Voilà, donc on conserve ce titre Brunello Cucinelli, voilà, qui a certes reculé sur la semaine de 5%, mais vous estimez que le potentiel reste plein et entier. Air Liquide aussi a reculé de 2,4% sur la semaine. Même chose, ce sont des prises de bénéfices. Air Liquide qui, il y a quelques jours, est entré dans le club des entreprises du marché français à plus de 100 milliards d'euros de capi. Voilà.
Tout à fait, donc, club assez fermé. Et puis, pareil, 12% de croissance de performance depuis le début de l'année. Air Liquide, c'est quand même plutôt, par essence, la valeur de bon père de famille qui est pas, qu'on ne voit pas habituellement progresser de, par exemple, 8% en une seule séance sur sa publication de résultats.
Oui,
donc, il y a un moment donné, effectivement, des valorisations un peu élevées. Donc, il faut prendre prise de profit, temporisation.
On a beaucoup inspiré. Là, on expire un tout petit peu. Légère expiration sur ce titre Air Liquide, mais rien de méchant. Moins 2,4% sur la semaine écoulée. En revanche, SPI, alors ça, c'est incroyable. SPI, depuis le début de l'année, signe la meilleure paire du portefeuille BFM Responsable. SPI gagne, depuis le 1er janvier, 22%.
Oui, et effectivement, séance après séance, le titre continue de progresser, de faire de nouveaux plus hauts. C'est intéressant parce que la perception du titre en bourse est vraiment en train de changer. On est passé de business qui était perçu à faible marge, hein, 3-4%, comme commoditisé, en fait, à des marges plus élevées du fait de ces transitions énergétiques et des services que SPI offre, en fait, et quelque part qui, maintenant, peut mettre son pricing power, sa capacité à fixer des prix de contrat, à vendre ses ingénieurs en services multitechniques grâce à cette transition énergétique qui n'existait pas ou peu avant 2019. Là, c'est marrant parce qu'on a vraiment une évolution de perception du titre sur un passé plus récent. SPI, c'est une partie en croissance organique, une partie en croissance externe. et notamment une acquisition en Allemagne qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui a été finalisée. Bon, voilà, et qui fait que SPI s'expose au marché allemand de façon vraiment conséquente, et c'est par essence le marché de la transition énergétique, de la méga électrification en Allemagne. Donc ouais, c'est très positif pour le titre.
Donc plus 22% depuis 1er janvier, on n'est pas tenté de prendre les bénéfices. On se dit que voilà, les as sont alignés pour que ça continue. Le titre est en train d'obtenir un statut de valeur à fort pricing power. Voilà. Donc ça
et devrait... à des valorisations raisonnables.
Il est l'un des trois co-gérants avec Frédéric Rosier et Stanislas de Bayoncourt de ce portefeuille ESG, une quinzaine de valeurs, le portefeuille BFM responsable. Merci Guillaume.
Merci.
Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions de Delubac Asset Management. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir, la famille BFM Bourse. On a une bonne nouvelle à vous apporter. L'Europe fait mieux que le marché américain aujourd'hui. Oui, on va vous expliquer pourquoi, ce sera juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et c'est la famille BFM Bourse réunie jusqu'à 17h. Julie Cohen-Horton, bonjour Julie.
Bonjour Guillaume.
Elle bâtit cette émission chaque jour, effectivement. Puis Jean-Louis Deloro qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Il était au deuxième étage dans la rédaction web de BFM Bourse, voyez. Puis là, il y a peut-être un petit problème d'ascenseur.
Il se fait désirer.
Il se fait désirer. Jean-Louis, il faut sortir de l'assiette. La famille qui va se réunir au complet dans un instant. Évidemment. Alors la semaine, elle est intéressante sur les marchés. C'est une semaine courte qui démarre. La semaine de 4 jours, vous en rêvez, c'est, les marchés se l'offrent, cette semaine de 4 jours là, puisqu'on aura une semaine écourtée, effectivement. Pas de séance à venir vendredi prochain, comme à chaque veille de week-end pascal. Les marchés américains seront fermés, les marchés européens aussi seront fermés vendredi. Donc c'est la semaine de 4 jours en bourse, mais elle sera riche et dense quand même cette semaine, avec quelques indicateurs intéressants. Demain, les commandes de biens durables du mois de février aux États-Unis par exemple, conférence board aussi, la confiance des consommateurs, et puis en fin de semaine, surtout, la mesure d'inflation la plus suivie par la Fed. Ce sera pour le coup vendredi l'indice PCE qui sera publié. Vendredi sera intéressant bien sûr à surveiller. Et puis bien sûr, voilà, ces interrogations, combien de baisses de taux à venir de la part des banques centrales. On aura quelques interventions aussi de membres de la Fed à suivre ces prochains jours. Romain Dobry est avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct.
Bonjour.
Bon, les forces en présence du coup dans le marché là en tout début de semaine, semaine écourtée, comment est-ce que vous les sentez là ce lundi après-midi, Romain?
Bernard, on n'a pas de force en présence du tout depuis la nouvelle échéance du 15 mars dernier, quand on a franchi, donc clôturé l'échéance du mois de mars pour ouvrir celle d'avril. On attend des signaux en fonction de l'évolution des cotations, et on ne trouve pas d'intérêt que ce soit sur le CAC 40, l'Eurostox ou même le S&P. Quel que soit le sens du marché, les opérateurs ne créent pas d'intérêt sur les futurs. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en roue libre. On sait souvent qu'après une séquence haussière, à la fin d'une échéance majeure, trimestrielle, on peut avoir un petit passage à vide, et c'est un peu le cas pour l'instant. En plus, on constate qu'il y a des volumes qui sont relativement faibles. Il y a cette semaine qui va être effectivement écourtée avec un rendez-vous majeur vendredi, alors que le jour sera férié pour la plupart des opérateurs, l'indice PCE, alors que le vendredi sera férié. Férié d'ailleurs aussi lundi à Paris, mais pas aux États-Unis, lundi suivant. Donc, on a un peu de flottement et des indices qui ne sont pas très synchrones. On voit que l'indice CAC 40 a testé, a flirté avec un niveau d'alerte intraday ce matin, alors que le DAX, par exemple, chez nous, a formé un nouveau plus haut historique. Donc, on a ce manque d'harmonie sur les indices, des cotations qui sont un peu désordonnées sur le CAC 40, qui laissent à penser qu'on est dans un moment de consolidation qui pourrait déboucher sur une baisse peut-être un peu plus marquée. Mais à ce stade, en tout cas, aucune pression baissière. En revanche, beaucoup, beaucoup de complaisance du côté des couvertures et de la protection dans les portefeuilles. On témoigne une volatilité sur l'indice CAC 40 qui est inférieure à 11. C'est pas beaucoup.
Ouais. Alors Vincent Le Quartier, qu'on suit aussi, qui nous accompagne régulièrement sur cette émission, met en garde les investisseurs, on peut peut-être vous poser la question d'ailleurs Romain, en disant que ce sera peut-être une semaine de vente d'actions. Pourquoi ? Parce que compte tenu de l'ampleur de la hausse des actions depuis le début du mois et le trimestre, alors que les obligations ont fait du surplace, dans le même temps, les fonds mixtes actions-obligations pourraient devoir vendre des actions dans les prochains jours, durant la semaine à venir, la dernière semaine du trimestre, pour rééquilibrer leur position. Est-ce que ça pourrait limiter le potentiel du marché actions dans les prochains jours, d'ici à la fin du trimestre, à savoir d'ici à jeudi ?
Bien sûr, il y a toujours ces phénomènes techniques qui influent sur le marché, et ils influent d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de momentum. Et comme je vous le disais, depuis qu'on a débordé les 8000 points sur l'indice CAC 40, on n'a pas créé d'intérêt. Et quand on arrive à la fin d'une échéance et qu'on laisse mourir 25% de la position ouverte, du nombre de contrats futurs, que sur l'Eurostox, la moyenne, c'est 3,7 millions de contrats ouverts, et qu'on n'en a que 2,6 millions, ça veut dire que personne ne prend d'initiative. Donc les arbitrages techniques sont encore plus importants, et effectivement, ça pourrait avoir une influence. D'autant plus, encore une fois, qu'on va arriver à un week-end prolongé avec un chiffre d'inflation majeur et qu'on a la possibilité d'intervenir. Donc ça pourrait être en plus un prétexte pour prendre du bénéfice.
Les prochains seuils techniques sur le CAC, c'est quoi ? Quels sont les niveaux à surveiller rapidement, Romain ?
On surveille toujours 8155 en bas à rompre en clôture journalière. On l'a testé aujourd'hui, on est allé chercher 8126 quand même, et en haut c'est 8227. Si on arrive à clôturer au-dessus d'un de ces niveaux, la cible suivante c'est à la hausse 8298, à la baisse c'est au moins 8089, mais moi je verrais bien l'indice aller tester une zone 7982-8054.
Et puis Romain, aujourd'hui, vous vouliez jeter un regard technique sur un opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières. Il a publié des résultats inférieurs aux attentes fin décembre et il tourne autour de 4,40 € aujourd'hui. Ce titre, c'est De Richbourg.
Ben oui, effectivement, De Richbourg, qui, malgré une publication décevante, a préservé pour la deuxième fois depuis le mois de octobre-novembre dernier, le niveau de support majeur à 4,08. On a un petit rebond qui s'est mis en place sur ce niveau de support. Le titre cote effectivement 4,40 à l'instant. Il a rebondi un petit peu. La structure pourrait former un double bottom. C'est un secteur qui pourrait retrouver de l'intérêt dans les semaines qui viennent. Encore une fois, un titre qui a pas mal consolidé. Il faudrait pour ça franchir 4,54 pour aller chercher 4,92. C'est le débordement de 4,92 qui permettrait d'aller chercher le haut du range à 5,60. En revanche, si on repasse sous 4,08 en clôture, c'est un mauvais signal pour le titre qui devrait consolider un peu plus.
Merci beaucoup Romain. On vous rappellera bien sûr au moment de la clôture des marchés, ce sera à 17h35 tout à l'heure, les marchés européens qui font mieux que Wall Street. Wall Street en petite baisse et Wall Street qui finalement signe pas un si génial début d'année que ça. C'est John Plassard qui nous le disait tout à l'heure à 15h30. Le S&P 500 n'effectue pour l'instant que son 15e meilleur début d'année. 15e depuis 1928. Ouais, c'est un bon début d'année, mais Wall Street a déjà fait mieux sur les trois premiers mois de l'année. On en parlait avec John, c'était à 15h30 tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay, bien sûr, est disponible sur notre site BFM Bourse. Alors, la question du jour dans un instant, vous vous demandiez aussi, c'était l'un des suspens du jour, si Jean-Louis finirait par arriver.
Bonjour à tous. Bonjour Julien, bonjour Guillaume. Petit problème d'ascenseur.
Jean-Louis est arrivé.
Ils ont voté non, sur les réseaux sociaux. Non, il va pas arriver.
Sans se presser. Ça va Jean-Louis ?
Ça va.
J'ai envie de vous retrouver. Il y a un petit problème d'ascenseur, effectivement. Bon, dans le sens de la montée, on comprend, hein, voilà, parce qu'on est un peu lourd tous, voilà. Mais quand ça descend, normalement, ça descend plus vite. Mais là, ça n'a pas été le cas.
Non.
Bon, Jean-Louis qui nous accompagne, la famille BFM Bourse est désormais 100% réunie à vos côtés jusqu'à 17h.
Mais pour l'heure, il est 16h37 et c'est l'heure de la question qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business. Vous faites partie de la famille, on vous sollicite, on vous demande votre avis.
Ouais. Et voici un indice concernant la question du jour que vous allez dans un instant nous dévoiler, Julie.
Ah, c'est de l'or. Il pleut de l'or.
Oui.
Il est l'or, monseigneur. On va parler effectivement de l'or.
Oui, l'or sur des records et ça nous a inspiré. Alors, outre ce petit son, cette question aujourd'hui. Pour vous, quelle matière première progressera le plus vite d'ici 10 ans selon vous? Est-ce que vous tablez sur l'or? Premier choix. Est-ce que pour vous, ce sera le cuivre? Est-ce que pour vous, ça pourrait être le nickel? Ou est-ce que pour vous, ce sera le cacao? Personnellement, moi, je suis très cacao.
Quelle matière première.
C'est l'heure du goûter, hein. Je suis plus or et cacao.
Moi aussi, je suis comme vous, alors il y a concurrence. Eh ben voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le cacao. C'est pour ça que moi, comme Julie, je pense, Jean-Louis, que c'est le cacao qui, dans les 10 prochaines années, va défrayer la chronique et signer parmi l'univers des matières premières au global une des meilleures performances.
Mais vous voteriez le
cacao? Non, moi je suis pas tellement team cacao sur ce coup-là. Je mettrais, si je regarde toutes les matières premières qu'on a listées, l'or, je le mettrais un peu à part. Alors certes, on est sur des niveaux records, mais quelque part, c'est un tout petit peu une matière première, mais c'est surtout une valeur refuge et une réserve de valeur. Et historiquement, bah, ça augmente bon an, mal an, mais ça n'explose pas les compteurs, sauf s'il y a vraiment une crise majeure. Le cacao, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'intéressant à regarder, parce que c'est très compliqué, en fait, à cultiver. Il faut une température constante, une certaine humidité. Et donc, en fait, il n'y a qu'une partie des régions dans le monde qui peuvent le cultiver. Et donc là, il y a des phénomènes météorologiques, notamment liés au réchauffement climatique, qui vont peser sur la production, ça on le sait, en tout cas, certainement avoir une production qui est plus fluctuante qu'avant, avec des baisses certaines années, des hausses d'autres.
Alors que la demande en cacao, elle progresse. Hein, voilà.
La demande progresse, mais moi, si je dois miser sur 10 ans, c'est toujours un exercice compliqué, je me dis que la demande peut s'adapter à l'offre, parce que si le cacao devient très très cher, je veux dire, c'est pas indispensable d'avoir son carré de chocolat. Si un jour votre carré de chocolat... Mais si un jour votre carré de chocolat il vaut 50 €, bon ben il y a plein de gens qui vont dire, bon bah, tant pis, je prendrai autre chose. Donc moi, si je devais choisir, je regarderais plutôt le cuivre, car c'est stratégique déjà dans c'est une vraie matière première pure et dure. C'est stratégique dans de très très nombreux secteurs, notamment industriels. On peut citer l'automobile, le bâtiment et tout ce qui est technologie liée à la transition énergétique. Et en début d'année, on l'a vu, la simple mise à l'arrêt d'une mine au Panama, alors c'est quand même une grosse mine, mais a fait grimper les cours très très rapidement. Et surtout sur le long terme, ce sont les prévisions de l'IFP Énergie Nouvelle. Ils estiment que dans les 30 prochaines années, on va consommer entre 60 et 90% des ressources de cuivre connues. Entre 60 et 90%. Bien sûr, on va certainement découvrir d'autres gisements, mais plus durs, généralement, c'est le cas à exploiter. Et pour le nickel, ils avaient fait aussi ces prévisions-là. C'est pour ça que je préfère le cuivre par rapport au nickel. Ils disaient 60% là aussi, mais 60% au maximum. Alors que le cuivre, entre 60 et 90%. Donc, il va y avoir de moins en moins de cuivre, alors que la demande, elle... Eh ben, elle va avoir difficilement du mal à s'adapter puisqu'on a des besoins énergétiques.
On disait la même
transition
chose,
oui, énorme.
D'accord, mais on disait la même chose du pétrole et puis on est toujours sous les $100 le baril parce que plus on se dit on va manquer de pétrole, plus on explore et plus on trouve de nouvelles réserves finalement. En 1980, on avait devant nous 30 ans de réserves de pétrole. Bah, 40 ans plus tard, on a devant nous aujourd'hui 50 ans de réserves de pétrole.
Oui, le problème du pétrole, si vous voulez, c'est que en réalité, même dans 1000 ans, il y aura toujours du pétrole sur Terre. C'est comment est-ce qu'on peut l'exploiter et quelles ressources énergétiques il faudra mettre pour récupérer plus, entre guillemets, en récupérant du pétrole. Et ça, plus ça va, plus c'est compliqué, plus on est dans du offshore. Par exemple, il y a peut-être, j'en sais rien, au milieu de l'Atlantique, imaginons, du pétrole, mais comment vous allez l'exploiter ? Très compliqué.
L'or, en tout cas, est sur de nouveaux records aujourd'hui. C'est bien l'or qui touche des plus hauts historiques cet après-midi. $2180 en ce moment. Et cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, laquelle de ces matières premières dans les 10 ans à venir progressera le plus ? Est-ce que ce sera l'or, le cuivre ? C'est votre choix, Jean-Louis, le nickel ou le cacao ? Nous, Julie et moi, on vote le cacao. Vous-même, vous tous qui nous suivez, qui avez choisi de répondre à cette question, comment avez-vous voté, Julie ?
Au goûter, vous êtes effectivement un petit peu plus or que cacao, puisque vous êtes 44% à estimer que c'est l'or qui progressera le plus d'ici 10 ans. Vient ensuite le cuivre, vous êtes 26%. Donc pour une fois, Jean-Louis, vous êtes complètement raccord avec le choix de nos internautes, mais ça peut évoluer, rien n'est gagné pour vous. Ensuite, le cacao, 17%.
On va faire le point dans 10 ans.
Oui, voilà.
On s'était donné rendez-vous dans 10 ans.
Exactement. Oui, ouais, mais il faudrait qu'on ait le droit de la mettre, cette chanson. Et en dernier point, le nickel à 13%.
Dans quelques minutes, le bullshitomètre. L'un de nos experts viendra déconstruire une idée de marché un peu trop répandue à ses yeux. C'est Marc Giraud qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais d'abord, la fusée du jour sur le marché parisien, plus 5%, le titre Believe, encore Believe. Que se passe-t-il aujourd'hui sur cette valeur, Jean-Louis ?
Oui, c'est d'ailleurs l'une des seules informations un peu à se mettre sous la dent aujourd'hui, sur le marché parisien en tout cas. Nouveau rebondissement sur le dossier Believe, la bataille boursière autour du groupe musical numérique va enfin pouvoir avoir lieu.
La battle, c'est ça.
Alors c'est un peu compliqué, mais on va pas rentrer dans les détails, on va un peu simplifier, mais grosso modo, l'autorité des marchés financiers vient de faire sauter un verrou qui avait essayé de mettre en place un consortium qui veut lancer une offre publique d'achat. OPA, sur le groupe. Et ce consortium, il est mené par le fondateur du groupe qui est allié à plusieurs investisseurs et qui veut racheter le groupe et le faire sortir de la cote. Mais l'offre à 15 €, je le rappelle, est jugée trop basse par certains actionnaires minoritaires. Surtout que Warner Music, Groupe Music, ils ont dit qu'ils s'intéressaient au dossier. Et justement, la décision de l'AMF va permettre à Warner d'accéder à ce qu'on appelle la data room, qu'on connaît bien ici, c'est-à-dire les données confidentielles du groupe, avant de faire éventuellement une offre. Et Warner a déjà indiqué que s'il faisait une offre, ce serait au minimum sur la base de 17 € par action.
Ah oui, d'accord.
Et donc c'est pour ça que le titre se rapproche de ces fameux 17 €. Oui. Mais Warner, par contre, va devoir faire une offre ferme et engageante avant le 7 avril. Ça, c'est la demande du conseil d'administration. Donc bataille gagnée pour Warner. On va voir s'ils font finalement une offre ou pas après avoir ouvert le capot.
Believe qui gagne 5%, c'est la cigale. Le titre est en train de chanter. C'est un spécialiste de la musique, beaucoup d'artistes très connus bien sûr à son répertoire. Alors, il y a Julie, dont on a entendu les talents de chanteuse il y a un instant, Julie.
C'est un modèle qui est très intéressant. C'est surtout qu'en fait, ils accompagnent des artistes, et puis il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux artistes, mais sur des réseaux sociaux ou autres. Oui. Et par exemple, pour récupérer des royalties. Donc voilà, moi je suis un artiste, imaginons. Et comment je fais pour aller sur Spotify, Apple Music, Deezer, ou encore TikTok, et puis pour après pouvoir récupérer mes royalties. Et eux, voilà, c'est vraiment le cœur de leur business model. Donc ils ont beaucoup d'artistes et ils ont un petit label aussi. Mais voilà, c'est un autre modèle par rapport aux majors. C'est assez intéressant comme modèle.
Effectivement, voilà, Believe en hausse aujourd'hui de 5%, pendant que certains chantent, d'autres déchantent. Et c'est notre portefeuille BFM responsable aujourd'hui. Il faut le dire, hein, quand on est déçu, notre portefeuille déchante. On en parlait à 16h20 tout à l'heure sur la semaine écoulée. Une nouvelle fois, ce portefeuille ESG fait un peu moins bien que le reste du marché. Ça fait un mois et demi qu'on sous-performe après 3 ans et demi de surperformance. Voilà, une respiration du portefeuille et des arbitrages peut-être à venir. On en parlait avec l'un des 3 co-gérants du portefeuille, c'était Guillaume Chaloin, vers 16h20. Si vous avez raté le direct, le replay est à suivre. Nos arbitrages à venir sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. 16h45, voici venu le moment, l'heure tant attendue du bullshitomètre. Chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire, dégommer les préjugés de marché. Aujourd'hui, c'est Marc Giraud qui nous accompagne pour HMG. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, ravi de vous retrouver Marc. L'actualité mondiale est chargée et lourde. Évidemment, les guerres Proche-Orient, dans l'Est de l'Europe, terrorisme, on l'a vu ce week-end à Moscou. Le monde, et spécialement le monde émergent, est dangereux à vivre et donc peut-être risqué pour les investisseurs. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez. Cette idée selon laquelle investir dans les émergents serait plus risqué qu'investir sur les marchés occidentaux. Pourtant, le risque émergent, c'est un sentiment assez partagé. C'est un lieu commun sur les marchés.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, même pas du tout d'accord. Mais vous avez tout à fait raison de dire que le risque émergent est mal vécu, mal perçu, puisque ça se traduit dans les faits. Les Français investissent très peu dans les pays émergents. Il y a, je pense, essentiellement un problème de la perception du risque qui n'est pas forcément tout à fait justifié. Il y a aussi le fait que les mauvaises nouvelles voyagent beaucoup mieux que les bonnes. Ça, c'est un grand classique. Et plus elles viennent de loin, et plus les mauvaises nouvelles voyagent mieux que les bonnes. C'est-à-dire que on a une surreprésentation des mauvaises nouvelles dans l'imaginaire collectif des épargnants. Et j'ajouterais que plus le pays émergent est loin, et quand on parle d'émergents, on pense à des pays très lointains généralement, et plus la perception du risque est accrue en fonction de cet éloignement.
Effectivement. Alors, il y a aussi un truc dans le cerveau humain, et ça, on l'apprend pour ceux qui font du théâtre, par exemple, c'est que souvent, le public retient beaucoup plus les scènes tristes, les scènes tragiques, que les moments comiques. C'est comme ça, le cerveau humain est fait comme ça, il cristallise davantage sur les mauvaises nouvelles. Et encore en plus, les mauvaises nouvelles sont davantage diffusées que les bonnes, ben, ça crée un prisme et un biais qui, pour l'investisseur, peuvent faire peur quand il s'agit d'investir dans les émergents. Donnez-nous des chiffres quand même, Marc, pour aller vraiment dans le concret. Des chiffres pour essayer de mesurer le risque réel des émergents.
On va essayer de quantifier. Alors, tous les risques ne sont pas quantifiables, mais on va essayer de quantifier un certain nombre de choses. Le risque économique, par exemple. Le risque économique, c'est notamment la situation financière des pays. Vous savez, on parle toujours du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire des pays émergents, c'est sur les 20 dernières années, 2,6% contre 3,4% sur les pays développés.
Donc leur situation budgétaire est plus saine.
Cette situation budgétaire plus saine a réduit leurs besoins de financement extérieur. Ce besoin de financement extérieur a été divisé par 2 jusqu'en 2024, puisque c'est 28% aujourd'hui. À titre de comparaison, l'endettement extérieur de la France, c'est quand même 47% de la dette publique qui est détenue par les non-résidents. Donc sur ce critère-là aussi, je dirais que la moyenne des émergents est probablement moins risquée. Ce besoin de financement extérieur réduit aussi la sensibilité des monnaies émergentes au dollar. Et pourtant, c'est la tarte à la crème de tout économiste qui se respecte de dire dès que le dollar monte un peu, c'est mauvais pour les émergents. Moi, je dis oui, c'est pas forcément bon, mais c'est de moins en moins mauvais de toute façon.
Ben, vous pouvez pas nier quand même, Marc, qu'il y a des vrais risques sur les pays émergents.
Il y a des vrais risques, c'est vrai, sur les pays émergents, mais les pays émergents, c'est quand même une population extrêmement variée. Il y a le risque global des émergents, et puis il y a le risque spécifique de chaque pays. Le risque du Chili, ça n'est pas le même que le risque du Maroc ou que le risque de la Corée du Sud. Donc, dans ces risques-là, il y a le risque économique qu'on a essayé de quantifier un petit peu déjà. Il y a le risque politique qui est difficilement quantifiable. Le risque de la devise, on a vu qu'il était généralement en baisse. Le risque de catastrophe naturelle, structurelle également. Je ne sais pas pourquoi les pays émergents sont souvent plus exposés que nous autres dans les pays développés aux catastrophes naturelles. Et tous ces risques-là interagissent entre eux, mais pas toujours négativement sur le plan économique. On a bien vu au Brésil, après la chute de la devise en 2013, que les exportations repartaient assez fort et que ça avait un impact assez puissant sur l'activité économique locale. Même au risque de vous scandaliser, je dirais, les coups d'État, les révolutions, c'est pas forcément mauvais. Regardez la France après la Révolution française et le Premier Empire, on a quand même une belle période de croissance. Ça a changé beaucoup de choses et certaines en bien.
Et donc vous dites, quand on est investisseur, il faut pas forcément avoir peur des émergents, mais même de l'instabilité. C'est ça que vous venez nous dire aussi.
Oui, l'instabilité est parfois porteuse de plus-value. Hmm. Parfois à moyen terme, parfois à court terme. Regardez par exemple, prenons un exemple.
Oui, soyons concrets, Marc.
Soyons concrets, oui. Toujours, revenons au concret.
Et ensuite, Jean-Louis vous interrogera, il a une sacrée question à vous poser.
J'ai toujours peur de sa question, parce que je sais qu'il est...
S'il n'oublie pas.
Non, c'est bon. Regardez, par exemple, la dernière grande crise des pays émergents, elle a été provoquée par la crise des devises asiatiques, qui elle-même a eu pour origine la dévaluation du baht en 96 ou 97, peut-être 97. Ça a été suivi par une vraie crise économique en Thaïlande, une crise également économique régionale. Et bien aujourd'hui, on est maintenant combien, enfin 20 ans plus tard à peu près, enfin j'ai du mal à calculer
vite passe,
ça. La devise thaïlandaise, le baht, est une des très rares devises mondiales qui se soit depuis renforcée face au dollar. C'est aussi un pays qui a un excédent de son commerce extérieur de 3,4% en moyenne sur les 10 dernières années. Ça fait envie à la France, je pense, ce genre de situation. Regardez aussi un régime monarchique. Un régime monarchique comme l'Arabie Saoudite. Parfois, un régime un peu autocratique, c'est quelque chose qui peut booster le développement d'un pays. Nous avons en France notre horizon 2030. Les Saoudiens ont leur vision 2030. Ben, je peux vous assurer que ça va sacrément vite là-bas.
Ben, ils nous copient alors, les Saoudiens, sur la vision 2030. L'horizon 2030, ils nous copient alors, les Saoudiens, sur le...
Je ne sais pas qui a copié qui, mais je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite.
Ça vous fait rêver, franchement, un pays comme l'Arabie Saoudite qui promet monts et merveilles, et c'est le cas de le dire, monts et merveilles, aller faire du ski, pourquoi pas, dans des montagnes climatisées. Non, mais sérieusement.
Oui, ça, c'est un peu exagéré, probablement, mais bon, si vous me permettez d'ajouter une dernière.
Peut-être porteurs de création de richesses. Ils ont besoin de se diversifier par rapport au pétrole et de devenir, pourquoi pas, un jour une nation touristique.
Mais ils sont extrêmement en pointe dans toute la
au-delà de la mer
énergétique, les éoliennes, le solaire, enfin, c'est impressionnant. On oublie aussi que c'est un pays qui est producteur d'une vaste quantité de matières premières. Vous parliez des matières premières à l'instant. Ce sont des gens qui sont des très gros producteurs, par exemple, d'alumine, de bauxite. Bon, je digresse.
Et vous le voyez venir, Jean-Louis. Jean-Louis Deloro également. C'est toute la famille réunie.
J'ai essayé de bavarder le plus longtemps possible pour essayer d'éviter sa question.
Non, mais moi, j'entends bien vos arguments. Mais quand même, quand on voit, par exemple, le marché chinois qui s'est littéralement écroulé et où beaucoup d'investisseurs étrangers ont perdu des plumes, vous allez pas me dire quand même que les émergents, c'est moins risqué que d'investir en France.
Je vais répondre un peu différemment. Vous avez parlé de la Chine et je trouve que c'est très intéressant parce que je vais revenir en France. Supposez que vous soyez français, c'est le cas, vous travaillez en France, vous gagnez votre vie en France, tout votre actif est en France. Donc vous avez un risque qu'on va dire probablement relativement faible, mais il est hyper concentré. Donc le fait que ce risque soit hyper concentré, ça ne va pas rendre ce risque plus fort. Simplement, s'il devait de manière très improbable se réaliser, il serait extraordinairement pernicieux. Donc la faiblesse du risque est compensée par la surreprésentation de la France en mode patrimoine. Et je pense que de ce point de vue-là, une petite présence, voire même une présence un peu importante dans les pays émergents, vous pouvez, en adoptant dans votre portefeuille un risque lointain, peut-être diminuer le potentiel pernicieux du risque local que vous avez chez vous.
C'est l'économiste et ancien prix Nobel d'économie Simon Kuznets qui disait il y a quatre types de pays. Les pays développés, les pays en développement, le Japon, dont on ne sait pas pourquoi il a réussi à se développer, et pourtant il y a des tremblements de terre en plus au Japon, l'Argentine, dont on ne comprend toujours pas pourquoi elle n'arrive pas à se développer davantage. Voilà ce qu'il avait dit, Simon Kuznets, effectivement. Donc n'ayez pas peur, c'est le message de Marc Giraud, HMG, n'ayez pas peur d'investir dans les émergents, votre message aujourd'hui. Vous nous accompagnez, Marc, jusqu'à la fin de la famille, il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble.
Bien volontiers.
Restez avec nous.
C'est un privilège pour moi. Ouais.
Narendra Modi, en Inde, le Premier ministre, qui lui promet de faire de l'Inde un pays développé, 100% développé, ce sont ses termes, d'ici 10 ans. Voilà.
Et là, pour le coup, la bourse indienne, elle se porte très très bien depuis plusieurs mois.
Hein. Elle a dépassé la bourse de Hong Kong il y a quelques semaines, effectivement. Et une forme de passage de témoin là, entre la Chine et l'Inde, effectivement. Il est 16h54. Voici venu, Julie, le moment et l'heure du Facteur X.
Et oui, tous les jours, on scrute ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Attention, Marc, hein, on scrute partout dans le monde, dans les émergents et aussi en Europe. Le prochain, ça sera peut-être vous. Mais aujourd'hui, eh bien, on a sélectionné un poste de Holger Schepitz. Et on prend la direction de l'Allemagne. Holger, il met en avant le fait que Standard & Poor's pourrait bien dégrader la perspective de AAA allemand si l'Allemagne ne parvient pas à améliorer sa croissance. Il met notamment en avant une détérioration de la situation budgétaire du pays ainsi qu'une hausse significative de sa dette.
Ah, l'Allemagne qui a peut-être du souci à se faire sur sa note. Vous partagez cette idée, Jean-Louis ?
Non, je pense qu'on s'amuse à se faire peur là. Parce que,
ou à se faire du bien, ça nous ferait rire si les Allemands.
C'est selon. Non, mais effectivement, là, l'Allemagne est un peu. Empêtré dans une croissance morose, hein, moins 0,3% en 2023, donc ils sont déjà en récession. Ils visent sur 0,2% cette année, mais il ne faut pas oublier que la dette allemande, c'est 65% du PIB à peu près, donc en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est juste qu'ils ont un frein budgétaire, leur fameuse règle d'or. Donc en fait, ils n'ont pas un problème économique, parce que s'ils s'endettaient, ils pourraient relancer assez facilement leur croissance, tout en ayant un taux d'endettement qui est quand même assez bas par rapport à tous leurs voisins. Donc ils n'ont pas un problème économique, ils ont un problème politique. Voilà. C'est, est-ce que l'Allemagne va changer un peu de braquet sur l'histoire de la dette et se dire bon en fait on a fait les fourmis mais on peut être un peu cigale dans 3 ans.
Est-ce que la perspective de la note allemande finira cette perspective par être dégradée parce que les Allemands certes sont vertueux budgétairement en termes de dette, on les envie, mais sur le front de la croissance ils sont en retard. Il y a un problème peut-être de croissance, mais vous dites ce problème de croissance, il est lié à des verrous politiques. Bon, ça reste un sujet quand même pour l'Allemagne. On verra effectivement si la note allemande finit un jour par être menacée. L'écart de taux entre les 10 ans français et allemands, cet écart de taux c'est pas mal réduit ces derniers mois et ces dernières semaines, figurez-vous. On a aussi un chiffre à vous proposer, vous tous qui nous suivez. Et Marc, on sait que vous êtes un de ses principaux amis, Donald Trump, je vous mets pas mal à l'aise là, ça va? Vous êtes bien?
Un peu quand même. Ça, vous allez me faire une réputation.
Alors, si vous êtes ami avec le futur président américain, ça vous fera une excellente réputation. On ne sait pas. On est à 227 jours maintenant de la présidentielle américaine. Et Donald Trump joue gros aujourd'hui même, Julie.
Absolument. Il pourrait même empocher 3,3 milliards de dollars. C'est en tout cas ce qu'il espère de l'introduction en bourse de sa société de médias. La société s'appelle TMTG pour Trump Media et Technology Group. Elle est en passe de fusionner avec un véhicule qui est déjà coté. Et donc, cette opération, elle pourrait donc lui rapporter 3,3 milliards de dollars. Alors, on va voir si ça aboutit. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette opération, elle intervient alors que Donald Trump, il fait face à des frais de justice un petit peu importants pour un petit procès de fraude.
C'est-à-dire que cet argent, il lui permettrait d'obtenir l'argent nécessaire, la caution dans son procès civil. C'est important dans le cadre de la campagne électorale américaine.
Oui. Alors, attention, ça va être un peu de façon détournée parce qu'il y a ce qu'on appelle un lockout, un verrouillage. Les actionnaires actuels n'auront pas le droit de vendre leurs actions, dont Donald Trump pendant 6 mois, sauf que vous pouvez gager vos actions et faire un prêt là-dessus, et donc là, immédiatement, une fois que vous êtes coté en bourse, donc effectivement c'est sans doute ça qui va jouer, et d'ailleurs il est devant un tribunal aujourd'hui, Donald Trump, et s'il ne parvient pas à prouver qu'il peut payer ces fameuses amendes de 454 millions de dollars, et tout simplement la justice se permettra de saisir ses biens immobiliers. Bien évidemment, Donald Trump ne veut pas du tout ça. Alors on peut noter quand même que la valorisation de son groupe de médias est quand même extrêmement élevé. Ils ont fait à peine 3 millions de dollars de revenus sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Et donc là, on valorise l'ensemble du groupe, donc les parts de Donald Trump plus le reste, 5,7 milliards de dollars. Ça paraît énorme.
La patrouille nous rappelle, là, c'est Fabien en régie qui se fait plaisir.
Ça surprend.
Il me reproche tout retard et en même temps, il en fait son miel.
Non, mais moi, je suis en retard depuis le début.
C'est votre faute. Vous êtes arrivé en retard, donc on finit en retard. Merci à la famille, l'ensemble de la famille. Jean-Louis Dalloro, les équipes web. Oh, il y a cet article consacré au secteur bancaire. Les banques françaises pourraient repartir à la hausse en bourse. C'est UBS qui nous le dit, grâce notamment à l'activité banque de détail. Vous y avez consacré un article. Il est disponible, il est en ligne depuis tout à l'heure. Très intéressant. Chacun d'entre vous pouvait le consulter, bien sûr, bfmbourse.com. Marc, merci. Marc Giraud, HMG, plaidoyer pour l'investissement dans les marchés émergents. Le replay est à suivre aussi sur notre site BFM Bourse. Et Julie Cohen-Horton qu'on retrouvera demain pour un nouvel épisode de La Famille. Salut Julie, elle bâtit cette émission chaque après-midi. On se retrouve juste après la pause pour le suivi de la séance. Bonne nouvelle, Une fois n'est pas coutume, l'Europe fait mieux que Wall Street cet après-midi. On vous explique pourquoi dans un instant. À tout de suite.